just out having fun. I didn't know she was dreaming and thinking I was her new one. I didn't know she was crazy and hanging on by a string. But I should have known something when she told me I was her everything. I guess it makes me guilty. Does it make me guilty? I guess it makes me guilty. Guilty of me, no. I might have let her on. She walks so slow, she stumbles and catches herself before she falls. I didn't know what she was drinking or smoking, cause the girl did it all. She made me test my limits when I thought all my limits was gone. I didn't say yes, but I couldn't say no. She wouldn't leave me alone. I guess it made me guilty. Does it make me guilty? Does it make me guilty? Guilty, no. I might have let her on. Now I can't blame nobody, cause I know right from wrong. And somewhere in this situation, I guess I might have let on. And now that it's over, it's only over in my mind. Because she still try to cough and pretend that everything is fine. Now does that make me guilty? Do you think I'm guilty? I guess it make me guilty. Guilty of me, no. I must have let her on.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 982, en ce samedi 2 avril 2016. On vient de changer de disque du mois. C'est celui qu'on vient d'entendre. L'album s'appelle Guilty Saints. Il est signé et co-signé Neil Black et Larry Gardner. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Ça fait partie du lot de 4 CD qu'on voit en ce moment Dixie Frog à toutes les radios du collectif des Radio Blues et à tous ceux qui s'intéressent au blues de près ou de même de très près. Dixie Frog, donc, dont ce seront, je vous le rappelle, les dernières parutions On aura tout à l'heure, à partir de 13h15, l'ami David Isaac qui est en train de lancer Borderline Blues Music. On va en parler avec lui, on va parler de Dixie Frog également bien sûr, puisque David est un collaborateur de Philippe Langlois depuis plusieurs années maintenant. Et puis, deuxième heure, on aura Pascal Delmas au téléphone, batteur des French Blues Explosion, qui viendront enflammer un certain nombre de scènes très très bientôt avec la chanteuse américaine Sandra Hall. Ça, c'est pour la deuxième heure. Et en troisième heure de ce 982e numéro de Sweet Home Chicago sur le 666, je vous proposerai vos dédicaces, des vieilleries, des petites surprises, comme d'hab, j'ai envie de dire. Voici, pour illustrer l'interview de David Isaac, Monsieur Nico du Portal and his Resonant Duds, l'album Guitar Player avec Rest Real Good Loving Tonight. Nico. Good, real, good loving tonight, Monsieur Nico du Portal. Voilà, on poursuit avec des artistes qui intéressent de fort près notre premier invité du jour, à savoir David Isaac, qu'on aura interviewé dans deux morceaux. Juste le temps de revenir un petit peu sur la carrière de Waterman and Slim, mais également sur celle de Beau Weevil. Le tout nouvel album de Beau Weevil, souvenez-vous, on avait fait une interview à l'automne dernier, 2015, l'album A Son of Pride. On y revient avec I'm Just an Animal, et c'est chez Dixie Frog et Borderline Blues.
became a fool. You know this world is too wild for a sensitive child. I can't a fool like me. Open my eyes and see. My tears dried up my dreams. Just don't know what more to seek. Well, I was trying to fool in a pantheon world. Just trying to survive in this human jungle. I'm just an animal. Just don't ask any questions. I do what a man's got to do. What do you expect from me? And why don't you see me? Have you noticed that I feel? And don't you see I'm real? Well, I'm just trying to be cool. Just an animal.
Alors, c'était vraiment un album fantastique, ce disque de Bo Weevil, Son of Pride, sorti fin 2015 avec Alain Baudry à la batterie, Bastien Alzuria à la guitare, Nicolas Marie au keyboard, Igor Pichon à la basse, Ivan Dotamayo, Congas au bongo, c'est Simon Rio, le sound engineer, toute cette équipe autour de Bo Weevil. Voilà, on poursuit avec monsieur Watermelon Slim, qui est un garçon qui était venu nous voir il y a quelques années au festival de Cognac en 2010. On se souvient peut-être d'autres passages, enfin moi non, mais voilà, j'avais été fortement marqué par ce garçon, cet Américain pur jus. Pour ceux qui le situent pas physiquement, voilà, vous imaginez un Calvin Russell deux fois plus épais. Et puis un type extraordinaire à la slide. On va s'en rendre compte avec une influence country là sur le titre qui arrive. Ça s'appelle Trucking Class. Oui, Watermelon Slim a fait 100 métiers, y compris chauffeur de camion. Voici à travers cet album Bull Goose Roosters.
One day I was sitting at the old Pig Out Palace on my way from Memphis to Gallup, and this young fella came in, sat down and started telling me how some trucker had tailgated him that day. Then he started talking about politics, and I said, I don't do politicians. But then he started talking about how truck drivers ought to go back to school and get some education. Well, it was time for me to roll on down the road anyway. But before I did, I wrote down this little song and put it underneath his cappuccino. And here it is. You can learn a lot from truckers, we're a class. We'll take you places you ain't never seen. Stop being such an ass. Perhaps one would show you just what I mean. It's not just shifting gears or hauling loads or dropping them and earning a week's pay. We'll tell you about tight places and dark.
Genre de titre qui pourrait passer chez Caroline dans Countryland le dimanche soir sur le 666. C'était Watermelon Slim and the Workers, l'album Bull Goose Roosters, avec Trucking Class pour illustrer cette interview. Va venir là tout de suite maintenant avec David Isaac. Salut David, tu vas bien?
Salut Marc, ça va très bien.
Très content de t'entendre sur l'antenne du 666. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle au téléphone et à la radio, non?
C'est la toute première fois que j'ai cette chance d'être mis comme ça en avant sur la radio 666 et l'émission Sweet Home Chicago.
La chance, elle est pour nous parce que tu es un homme de goût, tu es un homme de blues et on pourrait peut-être déjà retracer voilà ton parcours. Je disais tout à l'heure une présentation très succincte. Je te présentais comme collaborateur de Philippe Langlois pour Dixie Frog et puis également pour avoir œuvré à la création et au fait de faire perdurer ce festival Blues sur le Zinc, Blues autour du Zinc d'ailleurs, il y a eu deux noms, à Beauvais.
Exact. Hein, oui.
Et puis maintenant, on va dire créateur de Borderline Blues Music. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ta passion pour la musique, ta passion pour le blues et le rock'n'roll?
Bah écoute, voilà, tu as déjà tracé une belle trajectoire qui est relativement fiable. Ça commence donc en 98 et jusqu'en 2007 avec le Blues autour du Zinc et donc Laurent Massimba, où il y a une évolution passant de bénévole, plus sur un aspect technique d'ailleurs, un petit peu si tu veux, homme à tout faire, où tu es à côté d'un technicien, tu files la main pour tirer les câbles et machin les trucs, voilà. pour finir salarié sur le blues autour du zinc, donc une belle expérience aux côtés de Laurent Massimba qui s'arrête en 2007. Et puis en 2009, donc une petite période de latence où je bricole un petit peu, si tu veux, en collaboration avec des artistes. Une belle collaboration quand même avec Eric Bling, avec lequel on a fait des choses sympathiques, notamment oui. sur l'année 2007-2008.
Je me souviens de son passage à Cognac Blues Passion, Eric Bling, oui.
Et ben voilà, ben c'est chez Michel Roland que j'avais découvert le mec, avec son concept qui était relativement gonflé, parce que pour venir tout seul sur scène, il faut quand même être un petit peu équipé en coronesse.
Il faut soit être équipé, comme tu dis, soit s'appeler Philippe Ménard. Mais lui, il s'appelle Eric Bling et ça marche tout aussi bien, j'ai envie de dire.
Oui. Eh oui, tu cites Philippe Ménard, parce que bien avant Eric Bling, effectivement, il y a un mec comme Philippe Ménard qui, lui, est fort de son expérience, de sa culture, avait déjà eu ce truc, et voilà, et c'était déjà très visuel. D'ailleurs, on avait accueilli Philippe avec sa compagne sur le blues autour du zinc, et s'en avait scotché quand même plus d'un. Voilà, cette expérience qui me fait mettre un premier doigt, si tu veux, dans l'accompagnement d'artistes, autant booking que management, très très sauvage. Et puis ma rencontre avec Philippe donc en janvier, en novembre 2008.
Alors là on parle de Philippe Langlois, de Dixie Fred.
Philippe Langlois, maintenant on passe à Blues Autour du... après Blues Autour du Zinc, on passe à effectivement Dixie Frog, en grande étape professionnelle va-t-on dire. Ouais. Et donc ma rencontre avec Philippe effectivement, où j'intègre en janvier 2009 l'équipe de Dixie Frog. Et c'est vrai qu'avec Philippe on s'était croisés pas mal de fois. Moi j'avais collaboré avec... étroitement avec différents artistes qui étaient signés chez Dixie Frog, Ramon Goose, Björn Berg, Experimental Tropic Blues Band. D'ailleurs, je les ai fait venir chez Dixie Frog. Enfin voilà, Philippe savait plus ou moins qui j'étais sans savoir véritablement qui j'étais. Et une rencontre fantastique avec Philippe. Voilà, à l'occasion d'un déplacement avec Ramon Goose, notamment sur Blues sur scène. Et je me déplace sur Paris pour de la promotion. Rencontre avec Philippe, fantastique. Voilà.
Alors Philippe Langlois. Oui, pardon.
J'en étais bouche bée. Enfin bon, voilà.
D'avoir collaboré avec lui et puis de continuer parce que cette histoire Dixie Frog, elle dure depuis 1986. Bon, à l'époque, on était tous en culotte courte, évidemment. et elle va se terminer, je pense, en apothéose, l'aventure Dixie Frog, parce que ça y est, j'ai envie de dire, c'est l'année du non-retour. Philippe Langlois a décidé de raccrocher les gants, c'est ça?
Oui, alors si tu veux, en tout cas. Sur raccrocher les gants sur le modèle qui existe aujourd'hui, qui est celui que tous les artistes et que tout le monde a connu aujourd'hui. C'est-à-dire Philippe Langlois, comme gérant de cette société, puncher, c'est vraiment un métier de fou. Franchement, un vrai métier de fou. Enfin, moi qui ai travaillé à ses côtés pendant 4 ans, j'ai rarement vu quelqu'un avec une énergie telle. Ouais. Philippe a fait de la boxe dans sa vie privée.
Mais justement.
De la boxe française.
Et oui.
Et c'est exactement l'image que j'ai de Philippe. Derrière son téléphone, son ordinateur, c'est un puncher. Donc voilà, c'est une boucle qui est bouclée. Philippe a envie de prendre un peu de temps aussi dans sa vie personnelle, parce que il a quand même 65 ans et que toutes ces années sont des années sans compter. C'est un business effectivement, mais un business dont on connaît la fragilité et le précipice qui se rapproche de plus en plus.
C'est clair qu'en ce moment, on est sur un dossier très épineux. On en parle de temps en temps dans les interviews Sweet Home Chicago avec les artistes, avec des patrons de labels, avec des créateurs programmateurs de festivals. Enfin, tous les gens qui tournent autour du blues, puisque c'est la musique qui nous intéresse le plus dans cette émission, mais c'est quand même général. On vend de moins en moins de disques chaque année, et puis le téléchargement illégal continue de faire son œuvre.
Alors, il y a ça d'une part, mais si tu veux, on n'est plus sur une période de changement, et le changement, il fait forcément des dégâts, parce que ce sont les plus sains en termes de gestion, parce que c'est ça le maître mot. Je veux dire, Dixie Frog ne perçoit pas le moindre centime de subvention.
Et oui.
C'est une SARL, donc ça a une certaine logique dans le montage économique du paysage français. Il n'y a rien de scandaleux. Il faut quand même se mettre dans l'idée qu'un type comme Philippe Langlois, c'est 30 ans vivre du fruit de son travail, avec tout ce que ça génère, c'est-à-dire le professionnalisme, l'abnégation, la disponibilité, monter des choses professionnelles correctes à la dimension des artistes avec lesquels ils travaillent. Donc c'est pas rien. Enfin, quand tu mets le doigt dans le truc professionnellement, tu te rends compte de l'ampleur de la tâche.
Oui.
Et puis aussi, du changement du milieu. Donc on est dans une période de changement qui chahute dans tous les sens et qui concerne tout le monde. Et je pense aux programmateurs avec lesquels j'échange, évidemment, et je comprends complètement leurs angoisses. Tout ça est en train de changer. Mais écoute, ce qui change n'est pas forcément synonyme de mauvais. Donc,
oui, non, mais voilà, on est dans une période de transition.
Espérons le meilleur.
Espérons voilà. Le meilleur, bien sûr. Et puis, en tout cas, à toi également, je souhaite le meilleur. Parce qu'après ce petit coup de rétro, on va avancer maintenant et on va parler de Borderline Blues et de Borderline Blues Agency, qui semblent être, vu de l'extérieur comme ça, tu vas me détromper peut-être, deux entités différentes ou c'est la même maison finalement?
Alors, si tu veux, en fait, c'est la même maison, mais comme je m'appuie et je prends la continuité artistique de Dixie Frog,
oui,
avec bien évidemment l'accord et la concertation de Philippe, et d'ailleurs Philippe reste à mes côtés, même si il cesse de publier sous le nom de Dixie Frog, Borderline Blues est, si tu veux, une extension de Dixie Frog.
D'accord.
C'est une extension qui se veut, alors je vais certainement pas me permettre de dire plus moderne, différente. Différentes, sont des sensibilités différentes.
Bah en tout cas, voilà, borderline, ça veut tout dire. Tu peux nous donner ta traduction, d'ailleurs, justement, du mot borderline, David?
Oh bah, borderline, c'est limite.
Ouais.
C'est limite. C'est ce qui est vraiment à la frontière 2.
À la frontière 2, voilà.
Voilà, à la frontière 2. Donc, si tu veux, en même temps, tu t'accordes une projection vers ce que pourrait devenir un blues européen, parce que c'est en Europe que se passent les choses, même si aux États-Unis, maintenant, ça commence à se gratter un peu la tête et à faire des choses un peu plus alternatives partant du blues. Mais enfin, c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même une grosse mouvance et il se passe énormément de choses. Donc c'est partir du blues et autant retourner vers des racines roots et redonner un coup d'éclairage sur des styles qui sont vraiment ultra roots, originels, en même temps du blues, comme des styles un peu plus modernes. Voilà.
Alors, est-ce que t'as des artistes comme ça à nous citer, des gens avec qui tu as déjà travaillé, avec qui tu aurais envie de travailler? Je pense notamment à la programmation de Laurent Massimba, que tu connais par cœur. Quand je dis que tu connais par cœur, c'est les goûts tout aussi éclectiques et son esprit, son goût pour la découverte que tu partages, bien sûr. Il y a des noms d'artistes comme ça avec qui, dans l'absolu, tu dis bah il faut que je bosse avec eux, quoi.
Oh bah écoute, pour l'instant, si tu veux, je reste quand même très humble devant la tâche qui m'est impartie. Et je pense, bah écoute, à ce que j'ai déjà en catalogue, c'est-à-dire Imperial Crowns, qui est vraiment là pour moi un petit vent de fraîcheur. Et je suis vraiment content d'avoir finalisé ce partenariat avec ces types qui
sont des sommités. Alors ça, c'est génial, parce que moi, je me souviens de leur passage à Cahors il y a une bonne douzaine d'années. On avait découvert ce groupe.
Même édition, on y était.
On s'est vu là-bas, bien sûr. Je crois que c'était en 2003, plus précisément.
Oh, il y a des chances, ouais.
Hein, ouais. 2003, ouais. 2004, je crois pas me tromper de beaucoup. Et à ce moment-là, il y a un album qui s'appelle Eamon Book, que je réserve pour les auditeurs tout à l'heure.
Hein,
qui était absolument un gros pavé. En fait, c'est un groupe un peu stoner au départ, un peu borderline justement, entre ce blues un petit peu poisseux, un petit peu graisseux, et puis une espèce de rock'n'roll 70s matinée de blues sudiste. Enfin voilà. Et puis sur scène, c'était, il y a toujours l'actualité des Imperial Crowns, tu vas nous en parler, mais mon souvenir, voilà, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire.
Eh ben, du spectacle. C'est-à-dire du show. Tu as le leader qui s'appelle Jimmy Wood.
Ouais.
Et d'ailleurs, le type, dans sa vie, il n'est pas que artiste, musicien, il est aussi acteur. Il prête sa voix pour des doublages de films. C'est la Californie, c'est Hollywood, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça coule dans les veines de ces mecs-là, quoi, toi.
J.J. Holiday est toujours à la guitare actuellement?
J.J. Holiday est évidemment à la guitare. Ouais. Billy Champagne Sullivan est à la batterie. Il n'y a que le batteur qui reste aujourd'hui un point d'interrogation, mais qui est en passe d'être réglé, puisque ça va être réglé quand même très vite pour la tournée qui arrive au mois de novembre en Europe.
Ah.
Mais ce qui est fantastique, c'est que tu sens l'attachement des types à des origines de blues qui sont vraiment en Californie du Sud, et notamment pour un type qui s'appelle Hollywood Fat,
oui,
qui était un harmoniciste que moi, personnellement, je connais très très mal, mais que nombre de musiciens, Nico du Portal en l'occurrence, qui va quand même pas mal de fois en Californie avec ses potes Kid Ramos et Junior Watson, m'en a parlé quelques fois, Papa Chubby m'en a parlé aussi, enfin Hollywood Fat, c'est une référence, c'en est une pour Jimmy Wood. Et Jimmy Wood est identifié comme la Cadillac du blues en harmonica. Après tout ça est discutable, tu sais que c'est des petites voilà, des petites étiquettes qu'on colle à droite à gauche comme
oui,
ça.
Oui, et puis il y a des petites chapelles, je veux dire aux États-Unis plus particulièrement en Californie, on peut citer Kim Wilson par exemple, c'est encore une autre approche
sûr, évidemment, toi, incontournable.
Il y en a plein forcément. Alors les Imperial Chords, on va les écouter tout à l'heure David, mais d'autres artistes qui t'ont fait vibrer récemment, peut-être des découvertes des gens avec qui tu as vraiment envie de bosser et pour lesquels tu as déjà commencer à poser les premières banderies, j'ai envie de dire.
Alors, il y a Balkan Brothers, forcément, en lesquels je crois énormément, même si aujourd'hui, rien n'est facile, il faut se battre pour tout. Ce qui me plaît chez ces garçons, c'est que ce sont des garçons, sont des frères, ils sont très construits, il y a un lien familial qui est très très fort entre eux. Le leader guitariste, enfin le leader, c'est un duo, hein. Aujourd'hui c'est un duo, c'était un trio il y a encore
Steve.
Deux ans,
ouais.
C'est un duo aujourd'hui, le leader et guitariste qui s'appelle Steve Balkan est un génie à la guitare slide, il est luthier, il a 27 ans, il a son magasin, il fabrique ses guitares, les guitares sur lesquelles il joue, hormis peut-être une Jazzmaster Fender qui est une guitare de série, mais les autres, les Dobro, sont fabriqués par ce jeune mec.
D'accord.
Tu prends le batteur Nick Balkan. C'est un niveau musical, mais tu sens qu'il y a une autre culture. Tu sens que l'éducation a joué son jeu aux États-Unis, en tout cas sur ce pan-là, d'ouverture et de culture générale, parce que il y a une pratique musicale qui est juste mais incroyable pour des mecs de cet âge. Bah,
moi, je trouve aussi, enfin bon, ça c'est une, c'est quelque chose que tu signales plus particulièrement pour les Balkan Brothers, mais je trouve quand même une généralité. Tu vas me dire
bien
le contraire,
sûr.
Peut-être. C'est que les Américains ont tous des musiciens dans leur famille proche, s'ils sont pas musiciens eux-mêmes. Je disais ça, je sais plus qui, il y a quelques mois en France, il y a une personne sur 100 qui va te citer un grand oncle qui avait fait du clairon en 1934, quoi.
Absolument. Hein, oui, c'est vrai.
C'est pas la même culture non plus. Quoi, on va dire.
Non, c'est clair.
Et à signaler pour les Balkan Brothers, à leur laurier et puis à leur gloire, peut-être, le parrainage d'un certain Papa Chubby.
Bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, Balkan Brothers atterrit sur Borderline Blues. Les deux premiers albums que je sors, si tu veux, pour commencer à envoyer le message qu'effectivement, il y a un après à Dixie Frog, c'est les deux premières sorties. À l'automne dernier, en octobre, novembre, avec donc Balkan Brothers, produit par Papa Chubby, emmené par Papa Chubby pour un mois de tournée en Europe. Ça a marché vraiment hyper bien, avec des très belles dates en France, notamment au Cabaret Sauvage, à l'Empreinte, au Fil, au théâtre Lino Ventura à Nice. C'est des premières parties quand même, tu vois, qui pèsent. Et je passe tout ce qui s'est passé au Benelux, en Allemagne, c'était une très belle tournée.
Ouais.
Et puis l'album de Bowie Vinland Band.
Et oui, qu'on a écouté tout à l'heure.
Un bijou qui est véritablement un bijou. Mais tu retrouves simplement, je pense, dans l'actualité du moment, les musiciens les plus en vue en France.
Alors,
c'est-à-dire, tu as Kevin qui est à la batterie et qui joue avec Kokomo, avec Warren Mutton.
Ouais.
C'est une vraie belle révélation. Ça, c'est un duo. Alors, on sort carrément du blues. Mais alors ça, c'est un truc... d'ailleurs, ils sont passés au blues autour du zinc. Ils ont recueilli les faveurs de la majorité du public. C'est hyper visuel. On flirte avec un rock pop. On n'est plus sur le blues, ou en tout cas très éloigné, mais c'est hyper bien fait. Et puis, tu as bassiste quand même de Malton Milk. Tu as un percussionniste de la Malka Family.
Le bassiste de Malton Milk est un ancien collaborateur de Sweet Home Chicago. C'est mon ami Igor que je salue ici et puis qui fait une carrière formidable avec Malton Milk notamment et qui avait fait un groupe terrible au début des années 2000 avec Spoonful. Tu avais entendu parler de Spoonful, forcément.
Et voilà. Non, mais alors ça, c'est un album. Après, si tu veux, la mise en œuvre en termes de booking est nettement plus compliquée. Bon, ça, c'est un autre sujet.
Oui.
Mais il n'empêche que Mathieu a délivré là, avec l'aide de quand même de musiciens fantastiques en France, a délivré un album qui est qui mériterait beaucoup plus, en tout cas, je pense, en termes d'écoute, en termes d'accueil. Mais enfin,
David, moi, je te donne mon avis perso. C'est un album hors du commun. Et c'est également le chef-d'œuvre de Bowie Vinland, à mon sens, hein, bien sûr.
Mais oui. oui. Non, mais on est tout à fait, on est absolument OK là-dessus. Absolument.
Nico Duportal, voilà. Beau Weevil, les Imperial Crowns, voilà, quelques autres que tu as cités. On pourrait parler également de Waterman and Slim, qu'on a écouté juste avant cette interview. Alors, Waterman and Slim, un garçon qui a fait 1000 métiers, un type qui a été percé au blues et à la country music depuis fort longtemps. Je disais tout à l'heure dans une présentation un peu courte que c'était comme Calvin Russell, mais en deux fois plus épais. Et puis, avec un bagage intellectuel fou, parce que c'est un type qui est entré dans le Mensa, je crois.
C'est un type qui est juste, comment je pourrais dire, c'est un des joyaux du blues international. Ouais. Et c'est un des derniers grands. Tu sais, je me rappelle que pour Larry Garner, souvent, le titre de gardien du temple était employé.
Ouais.
Moi, Larry Garner, je l'ai rencontré effectivement sur un certain versant du blues, mais si on doit employer ce terme, il me semble que quand on regarde un petit peu les décès des derniers bluesmen, mais Roots, tu sais, vraiment à Ronnie Loss, quoi, hein, et ben Watermelon Slim, il est quand même pas très loin, et il est pas si vieux que ça non plus. Et là, il vient d'enregistrer un tout dernier album à Winnipeg au Canada.
Ouais.
Avec un jeune producteur et musicien qui s'appelle Scott Nolan, et ça va être un pur bijou. Ça va être un moment, ce qu'on appelle des moments suspendus. Et Watermelon Slim, il a cette qualité vocale, cette capacité de narration, où c'est un type, tu vois, qui transmet un truc. D'ailleurs, ce ne sont pas des chansons inintelligibles, incompréhensibles du public, elles sont intelligibles, et c'est un véritable témoignage. Je veux dire, ce mec, il est investi d'une autre mission que celle d'un musicien. Alors, c'est moi qui le dis ici en France, je veux dire, tu l'aurais au téléphone, il dirait certainement tout autre chose.
David,
en tout cas, c'est ce qu'il évoque.
David, tu parles de Watermelon Slim et puis de sa diction, on va l'écouter quelques jours si tu veux bien.
Ah, fantastique. Superbe.
I think I heard him say, as he was struggling up the hill, I think I heard him say, take my mother home. I'll die so easy. Take my mother home.
David, tu parlais de moments suspendus. Ça, c'en est un, franchement. Hein.
Absolument. Ah non, mais c'est clair. Et alors, c'est très marrant parce que cette rencontre de Watermelon Slim, en fait, elle est provoquée. Bon, comme toi, je l'ai vu à Cognac en 2010 et j'avais eu l'occasion de le voir aussi en Belgique. Mais enfin, voilà, Cognac était un grand, grand souvenir, hein, notamment à la maison NC, où ce monsieur se met à relever ses jambes de pantalon, à demander une canne à pêche et à aller pêcher dans la Charente, alors qu'il se retrouve sur un truc très guindé.
Et il a même eu les honneurs de la grande scène, parce qu'il n'était pas programmé sur la grande scène. Je ne sais plus quel artiste cher s'est déprogrammé au dernier moment. Et il a bénéficié de plusieurs milliers de spectateurs ce soir-là. C'était monstrueux.
Mais absolument. Et c'était tellement rendu à ce mec qui était simple, la force tranquille. Et alors donc cette rencontre, elle est quand même assez incroyable puisqu'elle se fait grâce à un jeune mec qui est un Français qui s'appelle Max Sugarblanc, voilà, qui a fait un télécrochet relativement comment connu qui s'appelle The Voice.
Oui.
Bon, il a fait son parcours dans ce truc.
Alors tu parles de quelle version? La version française, la version belge, la version israélienne?
La version française, The Voice, version française.
Ça c'est un concept qui a dû se vendre déjà une bonne cinquantaine de fois dans 50 pays
évidemment,
différents.
Évidemment, qui est planétaire quasiment, ou en tout cas un peu de choses près. Bon, voilà. Et il se trouve que ce jeune Max se retrouve sur ce programme télé, je pense qu'il y a 2 ans, peut-être 3 ans. Et voilà, il fait son chemin, il attire quand même un petit peu les faveurs des jurys et du public, mais jusqu'à un certain stade, c'était pas son ambition. Il se trouve que très vite après cette émission, si je dis pas de bêtises, il prend ses clics et ses claques, il se barre aux États-Unis, il fait son petit road trip à pied avec son sac et sa guitare, vraiment le truc un peu stéréotypé, mais pour un mec de 25 ans à l'époque, peut-être un truc dans genre, quand même assez couillu, je trouve. Mmh. Et il va toquer à la porte de Watermelon Slim. Il est hébergé chez lui. Ouais. Il se lie d'amitié. Et de là, le contact se fait. Et voilà. Et Watermelon Slim a une véritable amitié, vraiment très forte, pour Max. Il se contacte quand même très très souvent. Et cette idée de tour vient tout simplement de ce jeune mec qui s'appelle Max.
D'accord.
Qui d'ailleurs, je vais lui faire un peu de pub quand même.
Et bien sûr.
Il a monté un site, une interface participative sur KissKissBankBank. Pour le financement de son album qui s'appelle Spoonful of Sugar. Voilà, exactement, Spoonful of Sugar. Et donc, le lien, c'est kissKissBankBank.com/max-sugar-blank-ck-debut-album-2.
Voilà, on écoute.
Si les gens auront l'occasion de visiter le truc, mais ça mérite. Voilà, c'est un garçon plein d'énergie et qui m'a transmis son énergie. Voilà.
Plein de talent, effectivement. On écoute quelques secondes de ce que peut donner Max Sugar Blank sur scène, justement.
Très bonne idée.
Max Sugar Blank en live, voilà, on est toujours en interview avec David Isaac de Borderline Blues Music, c'est toujours Sweet Home Chicago numéro 982 sur le 666, on est en direct bien sûr, et puis on évoque avec David toutes ces futures sommités du blues, je pense, parce que là on est sur un terreau qui est toujours très fertile. Hein.
Ah bah écoute, moi je le pense, et il y a des enquêtes qui partent des États-Unis qui ont été relayées par Huffington Post et puis d'autres journaux quand même très très sérieux qui tendraient à montrer que le blues reste un des styles musicaux les plus bankable entre guillemets en termes de musique live.
Oui.
Donc c'est quand même intéressant. Même si toute cette économie, comme on le disait tout à l'heure, est en train de changer et complètement différente, il n'empêche que le blues, ce qui a une logique implacable, c'est une musique, quand elle est bien jouée, avec vérité, avec charisme, elle te... Enfin, je ne vais pas dire que c'est une révélation, on n'est pas dans l'évangélisme, mais ça touche, quoi. Et ça touche parce qu'il y a des sacrés bons musiciens.
Ouais, comme disait James Brown dans les Blues Brothers, quand, quand il était dans, pasteur, tu sais, dans l'église, et quand Jake et Elwood sont là au fond de l'église et commencent à danser « Do you see the light ?»« Do you see the light ?»
Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Exactement ça.
David.
Quand c'est pas bon, c'est pas bon.
Ah oui, c'est clair, il y a aussi du médiocre dans tous les styles de toute façon. David, Borderline Blues Agency, Borderline Blues Music, voilà. Donc, est-ce qu'on peut présenter ça comme un label et une agence de booking? Est-ce qu'on peut présenter ça comme un truc hybride entre les deux ou...
Non, pas quelque chose d'hybride, tu as tout à fait, tu as le truc. Borderline Blues est un label, et l'idée, si tu veux, à terme... j'aurais fait entre guillemets mes preuves, c'est de refondre tout simplement Borderline Blues Agency avec Dixie Frog. L'idée, elle est purement et simplement là.
D'accord.
Le leitmotiv de Borderline Blues Agency, c'est signer des artistes en label sous Borderline Blues Dixie Frog et s'en occuper en booking sous Borderline Blues Agency. Et ça, c'est un modèle économique qui, après en avoir quand même moultement discuté avec Philippe, peut paraître viable. Mais je dis bien peut paraître.
Alors,
est-ce que
tu es en train de nous dire, David, que Dixie Frog n'est pas mort à ce moment-là en tant que...
Alors, Dixie Frog, en termes de structure et en termes de société, n'est pas mort.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que Dixie Frog est détenteur quand même de contrats de licence dont Borderline Blues va bénéficier, si tu veux, il y a deux ans où la mutation sera complètement faite. Mmh. Mais par contre, j'insiste sur le fait que artistiquement, Philippe ne sortira plus un seul album
oui, c'est ça.
Sous Dixie Frog Records. Mmh. À partir d'avril, et notamment en septembre, puisqu'il y a quand même 6 sorties de programmées, les prochaines sorties sont sous le nom de Borderline Blues, Dixie Frog, Piaf. Parce qu'il est important voilà. de dire aux auditeurs que Harmonia Mundi a été racheté par Piaf il y a un an maintenant.
Donc Harmonia Mundi et Piaf pardon, sont des distributeurs, on le précise également pour les auditeurs.
Voilà, ça c'est très bien que tu le fasses. Oui, voilà, très bien.
Alors Neil Piaf Black
est effectivement un distributeur, il a racheté Harmonia Mundi.
Voilà. Neil Black et Larry Gardner, bon, l'album qui est disque du mois en avril pour Sweet Home Chicago qui s'appelle Guilty Sense. Ouais. Il y a également le prochain Fred Chapelier qui sort fin avril qui est absolument génial.
Complètement.
Il y a le disque de Yann Habib qui confirme ce qu'elle avait fait la propre fille de Eric. Et puis Eric Bibb, bien sûr, qui sort son dernier album chez Dixie Freud.
L'incontournable.
Et j'ai envie de dire, alors, le fond de catalogue de Dixie Freud, il y a quand même quelques artistes avec qui tu vas poursuivre une collaboration active. Il y a par exemple Duke Robillard. Non.
Alors, ça va être très simple, si tu veux, là ce que je vais sortir, et c'est très bien parce que tu me tends une perche, ce que je vais sortir à l'automne, c'est effectivement un Duke Robillard en septembre.
D'accord.
Ensuite, je vais avoir un Imperial Crones, un Balkan Brothers, je vais avoir un Nico du Portal en Rhythm Dude, et là je suis content comme pas possible parce que c'est une vraie belle rencontre avec Nico du Portal.
Ouais.
C'est un super groupe. Mais un groupe d'une qualité internationale. Et je m'en rends compte, quoi. Il y a des demandes vraiment, mais colossales, si tu veux, au niveau international. En France, il y a un vrai travail à continuer à faire.
Ah, oui.
Mais enfin, Nico, depuis qu'il est sur la scène, il a prouvé très largement son talent. C'est un type qui est auteur, compositeur, un interprète à la guitare juste à tomber par terre. Et que énormément de gens nous envient à l'étranger. Ça, c'est la stricte vérité. Donc, un Nico du Portal. Je suis vraiment très content. Et puis un Balkan Brothers. Et un Graine de Fille. Un Popa Chubby aussi. Parce qu'en fait, voilà. Si tu veux, ce que je vais conserver. Mais oui, tu vois, je prends des notes, mais du coup.
Mais non, mais voilà. On évoquait Popa Chubby tout à l'heure en filigrane avec les Balkan Brothers.
Oui.
Lui, il va rester dans ton catalogue. Bah, d'abord, parce qu'il y a une histoire d'amitié indéfectible depuis plus de 20 ans avec Philippe Langlois. Et puis aussi, parce que c'est quand même un gros vendeur, Popa Chubby.
Alors, il y a ça d'une part, Marc, et puis si tu veux, il y a aussi la volonté des artistes. Parce que je vais te dire un truc, à un certain niveau professionnel, en tout cas pour des mecs comme Popa Chubby ou comme Eric Bibb, s'ils ont envie d'aller signer chez un autre label, ils peuvent le faire.
Comme tu le dis, ce
sont des gens qui sont capables de vendre. Là, on parle quand même d'un minimum de 10 000 albums vendus.
Ben oui, et en 2016, ça veut dire quelque chose, parce que Popa Chubby et Eric Bibb sont ceux qui sont les fers de lance, j'allais dire, qui sont en pointe du label Dixie Frog.
Et oui, on parle de gens qui sont capables d'être représentés au niveau international.
C'est ça.
Donc si tu veux, là pour l'instant, ce qui est vraiment de manière significative mentionné, autant de la part d'Eric Bibb que de la part de Popa Chubby, c'est de rester à la maison. Et donc ça, effectivement, ça sera peut-être, si tu veux, les artistes avec lesquels Philippe continuera d'avoir un regard aiguisé. De toute façon, Philippe, je vais dire, c'est my man, c'est mon ami,
On le sent, on le sait.
Popa Chubby
qui revient chez Dixie Frog après une petite incursion chez Provoke, je pense qu'il a dû être un peu échaudé, ça s'est pas forcément passé comme il voulait là-bas. Moi, je t'avoue, j'ai été le premier surpris de voir ce nouvel album de Popa chez Dixie. Bon, je me suis réjoui, bien sûr, pour Philippe et tout le staff. Voilà, maintenant, est-ce qu'on peut envisager, là, ça va être une de mes dernières questions, David, tu viens de citer un certain nombre d'artistes qui vont chacun enregistrer leur album et le produire, et ils vont être distribués par Piaf sous licence Borderline Blues, d'accord. Mais est-ce que tu penses que, à l'instar d'une création qui est fantastique comme cet album Guilty Sense de Neil Black et Larry Gardner, penses-tu qu'on puisse avoir d'autres collaborations d'artistes comme ça qui vont ajouter comme un millefeuille leur talent pour faire non pas seulement une compilation d'artistes, une compilation de meilleurs guitaristes du monde, etc., mais collaborer véritablement?
Non, écoute, pour être honnête avec toi, Marc, l'enjeu, il est, outre la stabilité que je dois trouver, et quand je parle de stabilité, c'est de la stabilité artistique, de la stabilité budgétaire et du concret, si tu veux. Alors, effectivement, le catalogue va s'affiner, se réduire, et non, automatiquement, il va falloir être extrêmement vigilant, mais je veux dire, c'est un truc qui coule de source. Je dirais pas malheureusement, parce que je le répète encore une fois, on est dans une période qui est quand même pas hyper confortable, mais qui va faire découler automatiquement quelque chose de nouveau, un modèle nouveau, et automatiquement pour les artistes, une vision nouvelle. automatiquement, tu vois, et il y a de la vigilance automatiquement, donc non, là, quand on cite, effectivement, quand je cite Popachubi et Rick Bibb, a priori, on est sur les artistes qui devraient être conservés chez Dixie Frog, mais après, je te dirais que les portes sont... Enfin voilà, c'est jamais fermé.
Oui, ben voilà, tout est en perpétuelle évolution, tout est en perpétuelle ébullition, que
voilà,
ce soit.
Évidemment.
On a bien compris l'esprit. Dernière question qui nous vient d'Internet. De qui rêves-tu de t'occuper, dis-moi? Est-ce qu'il y a un artiste avec qui, par exemple, Dixie Frog n'aurait jamais collaboré, et puis qui te ferait tellement titre que voilà, ce serait le coup de cœur du moment de David Isaac.
Il y a des discussions, mais j'ai pas envie de les mentionner parce qu'elles sont tant en France. Qu'aux États-Unis, et je suis assez surpris parce qu'au départ, je voulais absolument me concentrer sur l'Europe. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une demande des États-Unis, mais avec des groupes, mais à tomber par terre.
Ouais,
le tout, après, si tu veux, c'est d'être... Le maître mot, c'est réalisme. Et ça, là-dessus, je consulte Philippe. Je veux dire, il n'y a pas une semaine où on ne discute pas sur des propositions, sur... Voilà. Et je te dirais que voilà, après, effectivement, il y a énormément de propositions, il y a vraiment des choses très très bien, notamment en France, il y a de très bonnes choses, mais voilà.
Alors, tout cet esprit d'ébullition, comme ça, de remise en question, de nouveautés, de collaboration, est-ce qu'on peut dire, en fait, que le blues autour du zinc, ça a été un peu le laboratoire de tout ça, au départ? Pour toi, formation à toi, je veux dire.
Forcément, Marc, forcément, je veux dire, tôt ou tard, t'es pas indemne d'un passage de 10 ans, sur un festival comme celui-ci, qui plus est avec une personnalité comme celle de Laurent Massimba. Je veux dire, t'es obligé d'être, comme tu le dis, en ébullition, et tout le temps sur le qui-vive, voilà. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, sur mon passage du blues autour du zinc, il y avait cette volonté d'aller voir, de voyager, c'est vrai qu'on a pas mal bougé, et d'aller voir, découvrir des choses. Souvent, ça se recoupe.
Parce que j'ai toujours vu cette espèce de marché mondial auquel Laurent et toute l'équipe voilà collaboré. On s'est vu à Notodden, en Norvège.
En Norvège, absolument. Oui, c'est vrai, très juste. Et c'était la troisième fois qu'on allait à Notodden. Et d'ailleurs, là, pour cette édition, je discute avec Justin Forsberg pour Nico Duportal. Ah. Bon voilà, tu vois, on essaie de faire monter les choses, mais enfin, effectivement, tu as tout à fait raison, ça a été une pierre angulaire, forcément, dans mon petit parcours, évidemment.
Alors, dernière question, David, avant de souhaiter bonne route et bonne chance, bien sûr, à Borderline Blues, est-ce qu'on peut dire que David Isaac est à Philippe Langlois ce que Nicolas Tournier est à Jacques Perrin pour Soulbag?
Excuse-moi, j'allais dire j'allais lâcher un juron de ces jurons. Ah ben écoute, ça me touche, parce que je vais te dire, Jacques Perrin, c'est quand même un type que j'ai toujours respecté, je ne veux pas employer de termes disproportionnés, mais respecté énormément. Quant à Nicolas Tournier, que je connais, en tout cas pas personnellement, mais avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, ça peut m'aller. Si on me lâche ça, écoute, je prends.
Très bien. David, on a écouté tout à l'heure dans la radio Nico Duportal, Bo Weevil et Watermelon Slim. Grâce à toi, on va continuer avec les Imperial Crowns. Malheureusement, pas le prochain album parce qu'il n'est toujours pas sorti.
Ça
va venir. J'y compte bien. On y compte bien. Dans Sweet Home Chicago, on adore ce genre de choses. On aura les Imperial Crowns, on aura les Balcon Brothers et Duke Robillard. Voilà, tout ça avant de revenir au disque du mois. Merci David pour cette.
Je te remercie.
Merci pour tout ça, et puis merci pour ta passion. Elle s'entend de l'autre côté du poste, bien sûr, elle rejaillit sur tous les auditeurs.
J'espère, parce qu'elle est sincère, à défaut d'être riche, il y a de la passion.
Exactement. David, on se revoit sur la route du blues.
Je t'embrasse, et merci encore. Et puis, j'embrasse tes auditeurs. Merci à vous.
Ils seront sensibles. Merci David, à très bientôt.
Merci Marc, salut.
Ciao. Voilà, on continue avec les Imperial Crowns, l'album Human Book, enregistré en 2004. Little Death.
Little Death. Rolling hard, riding low. I'm coming, baby, daddy's coming home. Rolling hard, I wanna feel your hands all over my DJ steering. Roll back.
Les Imperial Crowns en 2004 avec l'album Amen Book, c'était Lil Death bien sûr. Merci encore à David Isaac pour cette belle interview, pleine de passion, de sincérité, d'enthousiasme. Bravo et bon vent bien sûr à Borderline Blues. On poursuit avec les Balcon Brothers. Voici ces petits protégés de Papa Chubby dont on parlait à l'instant avec Control Yourself.
Got my eyes on your mama but you say you got a man. Forget him now, baby, and take me by the hand. Yeah! I think you best control. Think you best control yourself. Cause I'm a loving woman. It's just a matter of time. I'm a slow lover, baby, but I'm moving up fast. Feel your loving and I want it to last.